Deutsche Welle. L'arbre à palabre.
À quand la fin de la saignée financière qui fragilise les économies africaines? Telle est la question au centre de nos discussions aujourd'hui. Il y a un an, une enquête commandée par les Nations Unies a révélé que plus de 50 milliards de dollars quittent le continent africain chaque année par des circuits illégaux. Corruption, blanchiment d'argent, mais aussi, bien sûr, les pratiques peu scrupuleuses de certaines multinationales qui produisent de fausses déclarations sur la quantité des biens produits sur place et exportés. Il en est ainsi dans le secteur du bois, de la pêche ou encore de l'exploitation minière. Pourtant, ces capitaux sont nécessaires au développement des pays africains. Et une telle situation ne laisse assurément pas les décideurs sans réaction, mais on sait aussi qu'en ces matières, très peu de décideurs africains font preuve de courage. Pour en parler, nous recevons Ali Idrissa du Niger, coordonnateur national du ROTAB, le réseau des ONG pour la transparence et l'analyse budgétaire. Monsieur Idrissa, bonjour.
Bonjour.
Docteur Yves Ekwe Amaizo, directeur du Centre Afrocentricity, spécialisé dans les questions d'investissement et de développement en Afrique. Docteur Amaizo, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Koch, chroniqueur économique et consultant, est avec nous depuis Londres. Vous avez vécu plus de 30 années en Afrique et vous êtes actuellement basé à Londres. Monsieur Nicolas Koch, bonjour.
Bonjour.
Chers invités, vous nous direz tout à l'heure quelle est l'ampleur du phénomène, s'il y a des efforts des États africains pour mettre fin à ces évasions de capitaux, et si oui, quelles sont les bonnes pratiques en la matière. Merci aux auditeurs qui sont déjà câblés pour suivre cette émission. Fréjus Kenom pour animer l'émission. Bonjour à tous. Direction le Niger pour commencer, Monsieur Ali Idrissa du ROTAB, comment se manifeste chez vous le phénomène d'évasion fiscale, d'évasion des capitaux?
Oui, mais chez nous, ce phénomène est même d'actualité. Quand on constate que des multinationales comme Areva s'entendent avec des autorités nigériennes pour pouvoir faire des placements et des transferts sur des paradis fiscaux, notamment à Dubaï, donc, ça pose toujours le problème de corruption, de blanchiment d'argent. C'est toujours au détriment du peuple, quand même, nigérien. Et tout le monde sait aussi que c'est ce qui empêche, quand même, à nos pays de se développer. Parce que si cet argent reste dans le pays et que les Nigériens ou bien puissent pouvoir créer des emplois avec et l'investir au Niger, nous savions bien qu'aujourd'hui, nous ne serions pas là où nous nous sommes.
Et l'affaire dont vous parlez, Monsieur Idrissa, si je comprends bien, c'est l'affaire des 200 milliards de francs CFA placés à Dubaï dont vous parlez, c'est ça?
Absolument, c'est cette affaire de 200 milliards où on a vu l'ancien directeur de cabinet du président de la République et actuel ministre des Finances signer pour transférer 200 milliards à Dubaï provenant de transactions financières entre le Niger et Areva. Par rapport à l'uranium.
Voilà. Je rappelle que dans cette affaire qui défraie effectivement la chronique au Niger en ce moment où nous enregistrons cette émission, il y a des clarifications en cours pour connaître un peu les dessous des cartes. Docteur Yves Ekwe Amaizo, vous avez entendu les propos de Ali Idrissa tout à l'heure qui a dit quelque chose dans lequel se retrouvent beaucoup de pays, c'est-à-dire que ces transferts de grosses sommes d'argent pénalisent les économies des pays en Afrique et ce sont les populations qui subissent le coup en végétant dans la pauvreté. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur ce phénomène donc de l'évasion fiscale, M. Amaizo?
Alors, merci pour l'invitation. Je vais renforcer ce que dit M. Idrissa. Vous savez, jusque les 2-3 dernières années, en gros, tout ce que vous appelez la saignée financière, qui sont des flux financiers illicites en provenance d'Afrique, se composait en gros de 3 grandes catégories. Les activités criminelles proprement dites, trafic de drogue, de personnes, d'organes, transactions illégales de toutes sortes, sur l'alcool, les armes, jusqu'au financement du terrorisme par exemple, blanchiment d'argent. La corruption, telle que nous la connaissons, qu'elle peut être active ou elle peut être passive, toute forme de malversation des fonctionnaires, des pots de vin, des falsifications de documents, arrivera certainement peut-être mêlé à cette histoire, voire les fiches d'imposition quand il s'agit du côté fiscal, et bien sûr la fraude fiscale elle-même ou l'évasion fiscale ou tout simplement le non-respect des législations et des normes en vigueur dans un pays. Et vous voyez, ces trois catégories sont en train de complètement d'être intégrées et de se mélanger, de devenir interdépendants. Oui. L'exemple qui a été donné par M. Idrissa est extraordinairement intéressant puisque tout ce que je viens de dire se retrouve dedans et vous ne savez plus par quel bout commencer, en fait, pour identifier d'abord la source et bien sûr ensuite permettre un contrôle, voire de la transparence et bien sûr arriver à des déclarations et enfin de pouvoir saisir cet argent et de le laisser dans le pays. Ce qui m'amène à votre deuxième partie de votre question. Si vous voulez que les populations puissent en profiter, il faut passer par toutes ces étapes-là. Ça suppose donc les acteurs de cela, à commencer par nos dirigeants dans nos pays, soient suffisamment sérieux pour travailler pour leur population.
Mais il semble que ce sont ces acteurs que vous interpellez qui, des fois, se trouvent être de mèche avec les trafiquants. Comment comprendre cette situation?
Oh, c'est par définition. Vous savez, si vous étiez élu dans les conditions normales, vous défendrez votre population. Si vous ne l'êtes pas et que vous travaillez pour d'autres rapports de force ou d'autres forces ou d'autres lobbies et d'autres groupes de pression, par définition, vous ne travaillerez pas le groupe de pression dont le rapport de force vous est favorable. Et donc, c'est un rapport de force. Toute cette histoire, c'est d'abord un rapport de force. Et il faut le mentionner, sinon on ne peut pas comprendre et sinon on est en train de rêver en disant « oui, il faut envoyer tous ces milliards ». À nos populations, il y a un rapport de force qu'il ne faut pas négliger et dont il faut s'organiser maintenant, éventuellement, contre ce rapport de force.
Merci beaucoup. Nicolas Coach, je rappelle que vous êtes chroniqueur économique. Alors, que pensez-vous de tout ce que vous venez d'entendre? On parle de rapport de force entre décideurs locaux en Afrique et ces grands groupes extérieurs à qui on reproche des pratiques douteuses. Il y a aussi que des acteurs politiques sont complices dans le départ de fortes sommes d'argent qui devraient être utilisées pour développer les pays africains. Quelle expérience avez-vous faite de ça?
Merci Fréjus. Moi, j'ajouterais seulement que je pense qu'il ne faut rien faire qui mine la force et l'importance de la souveraineté nationale économique. Je ne pense pas personnellement que la solution à tout problème est de critiquer un peu anonymement le système international. Chaque pays est quand même souverain, même avec des moyens très réduits, et on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que le petit pays du Rwanda l'a prouvé dans certains domaines. On peut faire beaucoup en insistant soi-même sur ses forces, ses propres forces. Que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit le système judiciaire, et je mettrai beaucoup d'accent sur la presse. Si on a des médias costauds et plutôt indépendants d'esprit, courageux, on peut faire beaucoup de choses. Et que si on insiste à mettre toujours la responsabilité sur l'autre, notamment l'étranger, souvent un peu anonyme, on n'arrivera pas à gérer et à régler ce problème. Dans mon pays, je suis britannique et comme a dit Fréjus, je suis rentré c'est un peu moins de 2 ans. Et il y a des sujets assez importants liés à notre conversation. La fiscalité et le non-paiement par certains secteurs de montants raisonnables de la taxation. Et dans son pays, chacun à la limite de ses possibilités. On doit prendre la responsabilité pour ses propres pays, ses propres économies.
Docteur Armaïzo, Monsieur Koch parlait de la question de souveraineté. Quel rôle la souveraineté peut-elle jouer éventuellement pour qu'on n'assiste plus à ces départs massifs de capitaux?
Alors, la notion de souveraineté, moi je l'aime bien, sauf que moi je suis dans le business. Cette notion de souveraineté peut très rapidement voler en éclats. C'est qui se passe? Je reviens à ce que je vous dis tout à l'heure. Vous avez affaire à des rapports de force et des lobbies très puissants. Malheureusement, et je dois vous dire la vérité, à 99%, ce n'est pas pour les populations. À partir de là, tout ce qui va se passer, le mot souveraineté lui-même pose problème, parce qu'il va être utilisé parfois par nos dirigeants pour justifier justement des saisies, mais alors la distribution se fait au sein du système politique qui est au pouvoir. Parfois, il se fait à l'avantage des systèmes extérieurs. Là encore, sous prétexte de la souveraineté. Donc, il faut faire attention à ce mot qui va jongler en fonction du rapport de force ou des rapports de force en présence dans le pays. Je pense simplement que si vous avez affaire à des êtres humains, dirigeants, dans la politique publique ou privée et qui ont une volonté simplement d'aider les leurs, parce qu'après tout, c'est nos familles, c'est nos sœurs, c'est nos frères, alors le mouvement change. Et là, ils s'organisent, parce que ça devient un besoin nécessaire de transparence pour que les informations soient de plus en plus transparentes au niveau de l'entreprise, petite, moyenne, grande, jusqu'à très grande, multinationale. Et du coup, les parlements derrière peuvent avoir une information fiable.
Merci, mais Ali Idrissa, on parle de questions de souveraineté. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question de souveraineté?
La souveraineté, ça dépend de là où on se place. Le Niger est soi-disant un pays souverain. Mais quand vous avez un chef de l'État qui devrait négocier avec une compagnie ou ce chef de l'État et ce ministre des Finances actuel et la plupart de ses camarades étaient anciens employés de Areva avant de se mettre en politique, et je me demande où est la souveraineté. Et vous avez bien vu, dans le cadre de cette souveraineté, le Niger s'est quand même donné des textes de loi lui permettant de tirer le maximum de profit dans le cadre de l'exploitation de ses ressources. Mais c'est sûr que, même pour sa mise en œuvre, même pour son application, des compagnies sont capables de résister à dire que ce ne serait pas bien pour elles qu'on leur applique les lois et les règlements du pays. Bon, donc moi, cette question de souveraineté, je me dis, c'est si on arrive à avoir des dirigeants soucieux de leur mission et de leur rôle pour le peuple et qui doivent travailler seulement, qui ne sont pas élus par ces compagnies et qui ne sont pas aussi élus pour un autre pays, mais élus pour leur peuple, là, on peut être en phase de se dire qu'on va défendre notre souveraineté et on va pour autant faire appliquer les lois et règlements. Il y a des lois dans le pays, il y a des institutions qui contrôlent tout ça, mais les dirigeants sont incapables de les mettre en œuvre parce que des fois, c'est à leur seul profit que tout ça là se passe.
Nicolas Koch, on parle de multinationales à qui il est souvent reproché la falsification, par exemple, des prix des valeurs transférées. Et on peut penser que les bénéfices engrangés qui sont acheminés vers l'extérieur profitent aussi aux pays d'origine de ces multinationales. C'est vous qui évoquiez la question de la souveraineté. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment défendre une souveraineté dans ces situations où des pays comme le Niger ou des pays faibles se retrouvent donc en situation, en conflit avec des pays développés qui ont plus de moyens pour se protéger?
Fréjus, et je sais que la réponse, ce n'est pas la mienne, la réponse est compliquée, elle est très variée, mais je pense qu'on peut faire surtout beaucoup mieux et on peut cibler certaines institutions nationales, par exemple les assemblées nationales, les parlements. Quels poids ont-ils? S'ils ont des poids sérieux, des possibilités importantes, est-ce qu'ils utilisent ces possibilités ou est-ce qu'ils sont facilement corruptibles, je veux dire. Si c'est le dernier, je pense que c'est au pays de faire le nécessaire pour les changer. Regardez, je vous parle de Londres, il y a 2 ans, je crois, la grande société américaine Starbucks, qui opère dans la plupart des pays du monde maintenant, il s'avérait que Starbucks payait des miettes en impôts à la fiscalité britannique. Et comment ils l'ont fait? Bah, par des astuces, ce n'était pas strictement illégal, mais en gros, ils sont basés en Irlande. C'était important pour l'Irlande d'avoir des bénéfices, disons, une situation favorable avec des grandes sociétés comme Starbucks. Et moins important de respecter, bien sûr, les intérêts des pays voisins. Nous sommes tous pareils, c'est la nature humaine. Il a fallu une enquête importante, et je dirais menée par des journalistes. J'insiste sur l'importance de médias indépendants avec intégrité. Mmh. C'est eux qui ont fait éclater le scandale et l'affaire. Résultat, Starbucks commençait à payer des impôts raisonnables. Et je crois qu'à chaque niveau, on n'a pas besoin d'être un pays géant, un pays monstre, de faire appliquer ses propres lois. Mais si la contamination est à l'intérieur de ses propres institutions, que ce soit au palais de justice, que ce soit
à l'Assemblée nationale,
c'est, je pense, une évidence qu'on va faire long feu. Et pour moi, il vaut mieux nettoyer, balayer devant sa propre maison, être sûr que c'est aussi propre que possible avant de lancer ou de se concentrer sur des accusations un peu anonymes.
Oui, mais avant de vous donner la parole, docteur Amaïzo, rapidement, Ali Idrissa, c'est généralement dans les assemblées nationales, en effet, que s'effectuent ces contrôles, puisque de temps en temps, on invite les ministres pour répondre à des questions. Qu'en est-il concrètement au Niger?
L'Assemblée est composée à plus de 80% de députés provenant de la majorité présidentielle. Donc, cette majorité se donne plus les moyens de protéger même et de défendre les actions du président de la République que de jouer leur rôle d'action, de contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a qu'une opposition qui essaye à la limite de dénoncer le pouvoir, mais qui n'a aucun poids pour faire aboutir une mesure visant à interpeller ou bien à mettre en cause la gestion gouvernementale. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir d'interpellation et d'écoute. Et ça, tous les ministres vont là-bas se balader, dire ce qu'ils veulent au peuple. Mais plutôt, il faut, je pense qu'un de nos intervenants vient de le dire, miser sur les médias, l'indépendance des médias, qui nous permet d'abord de connaître des problèmes et de pouvoir les dénoncer. Et une citoyenneté forte pour quand même que les citoyens puissent être conscients de leur rôle et se mobiliser pour pouvoir mettre fin à de telles pratiques.
Merci beaucoup. Docteur Yves Ekwe Amaïzo, quelle appréciation faites-vous donc du dispositif en place, de ce que font les États pour assainir le circuit financier et mettre fin, trouver une solution donc à l'évasion fiscale, au départ des capitaux?
On a parlé des médias, des journalistes. Oui, le Togo, je vous fais remarquer, est un des pays où le niveau est un des plus élevés des sorties illicites en Afrique. Pour un petit pays, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors prenons les trois exemples. Les médias. Les médias sont contrôlés souvent par l'État, et quand ils ne le sont pas, ils sont fermés quasi systématiquement. La société civile. La société civile, elle est ce qu'elle est. Dans un pays où il y a beaucoup de faim, beaucoup d'ignorance, et pas beaucoup de prise de conscience, et il faut le dire, les militaires aussi qui de temps en temps vous empêchent de parler, c'est très difficile de pouvoir lever ces éléments-là. Même l'opposition. L'opposition qui pourrait faire ce rôle, elle est minoritaire au niveau du Parlement, en sachant d'ailleurs que la vérité des urnes n'a jamais vraiment brillé dans ce pays. À côté de ça, je vous rappelle le rapport de force encore une fois. Donc il y a, oui, des pays qui font des efforts, et à côté, il y a des pays qui font semblant de faire ces efforts-là. Vous avez bien les institutions, mais ils ne fonctionnent pas. Les exemples ont été donnés tout à l'heure. Et quelle que soit la structure d'ailleurs, que ce soit la structure juridique, le Parlement, les médias eux-mêmes, ils peuvent même faire jusqu'au contraire. Alors attendez, il y a maintenant quelque chose de pire. C'est que vous avez maintenant des multinationales qui ont compris le système. Et que ces multinationales, qui sont justement ceux qu'il faut critiquer, s'amusent maintenant à financer des activités sociales dans le pays, qui fait vraiment de l'évasion fiscale et qui finance maintenant des activités, soit politiques, soit sociales, voire même des hôpitaux et autres. Vous comprenez que la population, d'abord, elle est perdue et elle ne peut pas attaquer celui qui lui donne un hôpital ou un dispensaire.
Docteur Amaïzo, des fois, dans beaucoup de cas d'ailleurs, on demande à ces multinationales de développer des œuvres sociales. On demande, là où il y a de l'exploitation de l'or, par exemple, ou de minerais, on demande généralement à ces gens de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Donc finalement, où se situe la responsabilité?
Elle est toujours de nos dirigeants. On revient à la notion de souveraineté. À quoi ça vous sert d'avoir un hôpital qui va vous coûter maximum 20 ou 30 millions à peu près d'euros aujourd'hui, pour à peu près 100 lits d'hôpitaux, alors que vous sortez de ce pays à peu près 400-500 millions. Et que cet or, l'empaillage que je connais très bien, que vous sortez, vous l'utilisez du mercure, et ce mercure va en gros diviser par 3 ou 4 le nombre de personnes qui vont arriver à l'âge adulte, voire même arriver à 50 ans dans le futur. Que la plupart des femmes ne pourront plus avoir d'enfants et que la plupart des hommes ne pourront pas être capables de faire des enfants. Voilà ce que fait le mercure. C'est ça le fond du problème. Donc, des gens intelligents, écoutez, vous faites autre chose, c'est tout.
C'est ça, où on est rangé dans l'opposition. Ali Idrissa, on a entendu tout à l'heure qu'il y a les institutions, il y a le cadre pour vraiment faire un contrôle effectif, mais pensez-vous que c'est vrai? Pensez-vous qu'il y a les ressources humaines qu'il faut, la qualité de ressources humaines qu'il faut pour mener à bien le contrôle, le fouiller dans le système et empêcher donc le départ de capitaux?
Oui, absolument. Moi, je suis certain qu'il y a des compétences sur place pour pouvoir jouer ce rôle. Mais aussi des institutions sont là
Oui, mais l'autre situation, Ali Idrissa, je vous prie de m'excuser de vous interrompre. On connaît un peu ce qui se passe dans les administrations fiscales ou les institutions spécialisées. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'informatisation. Ou bien, est-ce que vous avez des informations?
Tout ça, c'est quand même ce manque de volonté politique pour pouvoir mettre ces institutions dans les conditions pour pouvoir faire le travail. C'est vrai, il y a des institutions qui n'ont même pas de budget de fonctionnement à qui on demande ce travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la compétence et la qualité des personnels humains pour pouvoir faire ce travail. Mais l'État refuse de faire en sorte que ces institutions puissent jouer leur rôle pleinement.
Alors, Nicolas Koch, on parlait du dispositif en place. Est-ce que vous êtes aussi de l'avis que les ressources matérielles et humaines également sont disponibles sur le continent pour faire le contrôle et empêcher l'évasion fiscale?
Mais tout à fait, tout à fait. L'essentiel, c'est de garder en Afrique une bonne majorité, si on veut, des ressources humaines aptes à confronter tout ce genre de problèmes. Je ne pense pas que la matière grise manque, je ne pense pas que les personnes qualifiées manquent. Le problème, c'est que beaucoup trop sont à l'étranger, ils ne restent pas en Afrique. C'est très intéressant, je trouve cette discussion que nous avons extrêmement intéressante, mais c'est un peu les vieilles questions. Quelle est la solution? Il faut qu'on cherche les solutions. Les institutions les plus importantes, c'est le départ, c'est essentiel. Vous vous souvenez, il y a pas loin de 30 ans qu'on a commencé la vague de la bonne gouvernance en Afrique, les conférences nationales. Et je crois qu'on a fait beaucoup de progrès depuis ces 30 ans. Il faut aller plus loin maintenant. Il faut une deuxième vague de réformes. Et je trouve une dernière chose, la sanction des fautifs est essentielle. Sinon, on n'apprend pas. Malheureusement, on est comme ça, les êtres humains.
Très bien. Merci beaucoup, Nicolas Koch. Nous arrivons à la fin de cette émission. Ali Idrissa, on a parlé de punition. Monsieur Koch parle de punition. Mais ça me rappelle le cas du Maroc, par exemple, qui a adopté une attitude contraire. Le Maroc avait entre-temps décidé d'amnistier ses ressortissants qui détenaient des avoirs transférés illégalement à l'étranger. Est-ce que vous croyez que c'est un bon exemple, le cas du Maroc?
Non, ça ne peut pas être un bon exemple, parce que là, c'est ce qui va faire l'impunité. C'est l'impunité qui encourage aussi toutes ces pratiques.
Mais le résultat, au moins, il y a eu des retours de capitaux.
Mais ça veut dire que toutes les générations aujourd'hui à venir aussi se diront qu'ils peuvent bénéficier des mêmes mesures. Je crois beaucoup plus à la punition, à la cessation de l'impunité dans nos pays, pour pouvoir mettre fin à de telles pratiques. Vous voyez bien, quand nos chefs d'État sont déchus, les ministres sont déchus, ils se réfugient dans certains pays, mais dès que leur argent se termine, on est livré à la justice internationale ou bien autre. Il faut quand même qu'ils comprennent donc que leur bonheur, c'est dans le pays où ils vivent, où ils travaillent, et que même s'ils arrivent à détourner énormément d'argent de l'État, il faut bien qu'ils puissent, que pour cet État, qu'ils investissent, pour que cet État, les fils de ce pays, puissent en profiter. Mais moi, je ne crois vraiment pas à l'impunité pour pouvoir combattre de telles pratiques.
Voilà, la punition. Merci beaucoup, M. Idrissa. Dr. Yves Ekwea Maïso, le mot de fin et votre appréciation du cas dont j'ai parlé du Maroc. Est-ce que vous êtes aussi pour la punition?
Alors, il faut faire attention quand on parle. Il y a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Il y a des gens qui ont profité des lois existantes, que ce soit au Maroc ou ailleurs, en Afrique d'ailleurs, et qui sont sortis du territoire et qu'on essaie de faire revenir pour qu'ils investissent dans le pays. Donc, on ne peut pas être contre quelqu'un qui va réinvestir dans un pays. La deuxième chose, c'est pour ça que la notion de punition, de sanction, il faut faire très attention. La notion d'impunité, on est tous d'accord, on ne peut pas accepter qu'une société fonctionne sur la base de l'impunité. Mais deux, il faut faire attention aux États. Il y a un cas actuellement au Sénégal où le maire a été mise en examen, je crois qu'elle était même en prison, parce que détournement, etc. Vrai ou faux, ce qu'il y a de sûr, ce monsieur était, bien sûr, en gros, le futur peut-être candidat à la présidence, etc. Donc ça peut être réutilisé autrement. Puis troisième point, moi je changerais quand même l'angle, il s'agit vraiment d'éducation. Il faut une prise de conscience. L'éducation d'abord à l'école, tout simplement, parce qu'on ne vole pas. Quelle est la société que nous, les Africains, nous voulons dans le futur? Est-ce qu'on y pense? C'est ça le fond du problème d'abord. Donc l'éducation, la prise de conscience, et que qu'on soit un peu moins théorique et qu'on revienne à des institutions. Chaque fois qu'on dit quelque chose en Afrique, qu'on rajoute le comment. Comment on va le faire et avec qui? Surtout ouais. Le comment. Tout le monde est contre l'impunité, ou tout le monde dit, faut... oui, d'accord, mais, personne n'est contre, hein. Mais comment on fait ça? C'est quand même extraordinaire.
Et c'est le même problème un peu partout. Et vous avez parlé de l'éducation, je crois que c'est un bon mot pour boucler cette émission. Yves Ekwueamaizo, je rappelle que vous êtes spécialiste de transfert de technologie et du développement en Afrique. Ali Idrissa, coordonnateur national du réseau des ONG pour la transparence et l'analyse budgétaire. Et Nicolas Koch, chroniqueur économique et consultant basé à Londres. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis de bout en bout et à la semaine prochaine pour un autre thème sous l'arbre à palabres.